Bien, alors nous allons reprendre. Avant cela, j'aurais aimé saluer le professeur Guy Drouot qui nous a rejoint, qui a été pendant très longtemps l'artisan des tables rondes de l'IREDIC, du Master de droit des médias, et qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais dire quelques mots à l'attention des étudiants ?
Oui, j'ai le plaisir d'assister à cette table ronde. C'est la 14e édition. C'est une institution, c'est devenu une institution qui marche bien. Et je me souviens de la première table ronde que j'avais organisée avec une promotion qui vous a précédé. Donc cette table ronde avait porté sur les médiateurs dans les médias. Et nous avions réussi à faire venir 4 médiateurs extrêmement importants, le médiateur de France 2, le médiateur de RFI, le médiateur... Enfin, il y en avait 4 en tout, dont un qui était membre du CSA. Il avait quitté ses fonctions à RFI, il était membre du CSA. Et c'est une table ronde qui s'était déroulée de manière très, très, très confidentielle, mais très, très conviviale également, comme toutes celles qui ont suivi. Et je vois que le bébé a grandi. 14 ans, c'est déjà une longue vie bien entamée. Et je suis certain que sous l'impulsion de vos professeurs, d'Hervé Isard, de Philippe Mouron, Jean Fraissinet et bien d'autres, Frédéric Lory, je ne cite pas tout le monde, c'est une institution qui va perdurer longtemps encore, tant qu'il y aura des promotions d'étudiants. Alors, ce qui fait très plaisir également, c'est de voir d'anciens étudiants revenir en tant qu'intervenants. Je vois Maître Sophie Savaïdès. J'avais invité une étudiante, mais qui n'a pas pu venir, hein, qui était là il y a 7 ans et qui est chargée de mission au CSA. Elle est chargée des télévisions, notamment. J'avais invité également une des membres du CSA, qui est spécialiste du numérique, mais qui n'a pas pu venir à cause de ses engagements. Voilà. Eh bien, je vais redonner la parole à Philippe, qui est devenu le coordinateur de la table ronde. Je vous remercie de votre présence et de la qualité surtout de vos travaux. Merci.
Bien, merci. Alors, nous allons maintenant passer aux aspects juridiques, à la loi en elle-même, hein, à tous les aspects transversaux, on l'a dit, hein, qui sont réformés par cette loi. On va commencer par l'apport de la loi au droit des données publiques. Écoutez le rapport, hein, de Mme Lisa Buc-Lapsine et M. Geoffrey Labourel. On vous écoute.
Merci. Alors bonjour à tous. Alors avec Lisa, nous allons vous parler donc de l'apport de la loi pour une république numérique concernant le droit des données publiques. Alors pourquoi on a choisi ce thème ? Parce qu'il s'agit d'un des thèmes importants de cette loi. Et il s'agit également d'un des thèmes qui correspond le mieux, qui véritablement à la notion de république numérique. Alors, nous avons décidé d'aborder avec vous 4 points aujourd'hui. Dans un premier temps, nous vous rappellerons le contexte dans lequel sont situées les données publiques. Nous continuerons en vous parlant de l'apport de la loi concernant l'accès des administrations aux documents administratifs. Nous vous parlerons de la nouvelle notion qui a été créée, celle de données d'intérêt général. Également la réutilisation des informations des documents administratifs, ainsi que la publicité des algorithmes publics. Alors avant de parler directement des apports de la loi, on a jugé important de vous rappeler le cadre dans lequel se situaient les données publiques. On a considéré très tôt que cette notion pouvait vraiment avoir une valeur démocratique importante pour les citoyens. C'est notamment dans ce mouvement que le législateur a créé la loi du 17 juillet 1978 et a créé notamment la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, pour rendre cet accès possible. À partir de là, on a considéré également que ces données avaient une nouvelle valeur, une valeur économique, et qu'il était important de la partager au plus grand nombre, ce qui a ce qui a permis aux législateurs de modifier la loi de 78 pour permettre cette ouverture. Cette ouverture a également été possible grâce à l'Union européenne, notamment de sa directive de 2003 modifiée en 2013 d'accès aux documents, d'accès aux informations pardon, du secteur public, ce qui a notamment été retranscrit en partie dans la loi pour une république numérique. Voyons maintenant les apports de cette loi.
Donc, dans un premier temps, on note un des apports phares de la loi pour une république numérique, notamment au regard des droits des données publiques. Il s'agit de l'accès des administrations aux documents administratifs. Donc dans un premier temps, pourquoi un tel apport ? En effet, alors que le Code des relations entre le public et l'administration prévoit que les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, la CADA a toujours considéré que ce droit n'était pas ouvert aux personnes publiques. Donc en l'absence de précision, certaines administrations sont venues à la conclusion qu'aucun droit de communication n'existait ou qu'il devait être perçu comme une réutilisation justifiant un droit à tarification. Donc, dans la mesure où ce droit d'accès n'était pas ouvert aux administrations, cela s'est justifié, s'est matérialisé comme une nécessité, au final, pour le fonctionnement des administrations d'avoir accès à ces documents. Donc, ce flou législatif qui menait à des négociations et à la conclusion de conventions, qui étaient synonymes de coûts administratifs et de perte de temps, a mené à des freins d'ordre budgétaire, sociologique ou juridique ayant pour effet d'altérer la qualité, l'efficacité et la réactivité de l'action publique. Donc, d'autres effets négatifs ont pu être constatés, tels que le renoncement à la donnée dans la mesure où les conditions d'accès aux documents administratifs paraissaient complexes et manquaient de clarté. Donc, comment la loi pour une république numérique a fait en sorte d'élargir cet accès aux documents administratifs? Donc, dans un premier temps, tout simplement, donc elle a étendu ce champ d'application et ceci réside directement dès l'article 1er. Dès l'article 1er, dans la section 1 qui s'intitule tout simplement « Ouverture de l'accès aux données publiques ». Donc, la loi pour une république numérique entend poser un principe d'obligation de communication entre les administrations afin de développer un meilleur usage coordonné des données produites par les administrations, une plus grande transparence de l'action publique, tout ceci dans le dessein de gagner en productivité budgétaire et socio-économique. Donc dorénavant, cet échange d'informations publiques ne pourra donner lieu au versement d'une redevance puisque ces informations seront librement accessibles sur l'Internet. Donc une obligation de communiquer, oui, mais quoi ? Donc de nouvelles informations. Ici, la loi pour une république numérique nous donne des détails, des informations, donc de nouveaux éléments. Et par exemple, l'article 2 mentionne l'obligation de communiquer les codes sources. Enfin, on note des conditions de forme dans la publication, la diffusion de ces documents administratifs. La loi pour une république numérique mentionne effectivement des standards ouverts. Ceci figure à l'article 3. Donc, les standards ouverts sont définis à l'article 4, mais de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Donc, au sens de cette loi, on entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérables et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre. Donc, ces documents administratifs doivent être publiés dans un standard ouvert aisément réutilisable. Donc, ces documents doivent exister en l'état et doivent pouvoir être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant afin d'en faciliter l'accès. Enfin, on note une durée minimale. Donc, l'article 8 mentionne cette durée, c'est-à-dire que le législateur a fait le choix d'introduire une obligation de mise à jour annuelle du répertoire, ce qui a un double objectif, rendre plus effective la publication, mais aussi rendre plus pertinent le contenu du répertoire publié en garantissant son évolution régulière pour inclure de nouvelles informations publiques produites ou reçues par l'administration. Ainsi, la publication en ligne sera effectuée entre 6 et 24 mois selon la nature du document visé. Second point, la consécration de la notion de données d'intérêt général. Donc, pourquoi une telle consécration ? Les données d'intérêt général, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'informations produites dans le cadre de services au public dont l'ouverture est considérée d'intérêt général car elle rend possible la mise en place de nouveaux services à l'intention du public et facilite les améliore les politiques publiques. Donc, on note un répertoire de données non communiquées. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est-à-dire que le législateur a fait le choix de consacrer, de mieux catégoriser et d'identifier ces données qui étaient donc dans un flou, mais qui dorénavant, sous couvert de cette notion de données d'intérêt général, seront valorisées et permettront un meilleur fonctionnement des administrations. Donc, l'importance de cette communication de ces données d'intérêt général. Elle se justifie comment ? C'est-à-dire qu'à l'ère du numérique, la bonne exécution du service public implique d'assurer la disponibilité, la qualité et la diffusion des données associées aux activités de ce service. Donc, dans un premier temps, à l'attention des administrations, donc une donnée d'intérêt général identifiée telle qu'elle permettra aux administrations d'être mieux renseignées et donc d'être plus efficaces dans l'exécution de leurs services. À l'attention des professionnels et des citoyens, donc la publication de ces données permettra une meilleure information des citoyens et une transparence accrue, bien sûr, dans l'exécution des services. Donc, comment la loi pour une République numérique consacre cette notion ? Elle établit une liste de ces données. En mentionnant de façon assez éparse, il faut le dire, dans la loi, par exemple, l'article 22 mentionne les bases de données nationales des vitesses maximales. Donc, à quel effet ? Afin, tout simplement, dans une finalité de fiabiliser les informations relatives à la circulation routière et de développer des services innovants, par exemple. Autre exemple, à l'article 23 et 24, le comptage d'énergie. Donc, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont visés. Le but ? Quel est le but ? Le but est de permettre la régularisation des données détaillées de consommation et de production afin de favoriser le développement d'offres d'énergie, d'usage et de services énergétiques, tout ceci dans le respect des secrets protégés par la loi et dans un format ouvert. On note cependant une absence de définition claire. En effet, la loi se contente au compte-gouttes de nous donner des exemples, mais clairement, force est de constater qu'une définition claire, précise et complète n'est pas donnée. Donc la notion de données d'intérêt général se devine par des exemples et par ce que la loi fournit. Alors que l'on pourrait reprocher à la loi une certaine superficialité dans ses propos, on pourrait cependant y déceler une volonté du législateur de garder volontairement cette notion assez large afin de pouvoir y inclure peut-être à l'avenir de nouvelles informations, de nouvelles données.
Alors, troisième apport de cette loi, la réutilisation des informations des documents administratifs. Alors, pourquoi le législateur a eu besoin de parler de cet apport ? Puisqu'on est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans le cadre de valorisation de la donnée, de circulation du savoir et des connaissances, et dans ce cadre-là, le seul accès aux documents administratifs n'était pas suffisant. Alors, pourquoi concrètement cette loi, ce principe était nécessaire ? Tout d'abord, puisque plusieurs informations n'étaient pas sur le même plan d'égalité. Ainsi, certaines informations pouvaient être librement réutilisées par tous, tandis que d'autres ne pouvaient pas. C'est le cas notamment des données détenues par les services publics à caractère industriel et commercial. Ces données produites ou détenues par eux ne pouvaient pas être librement réutilisées. C'était également le cas de d'autres données qui n'étaient pas spécifiées, puisque le législateur parlait essentiellement dans les lois précédentes, de documents administratifs ou d'informations publiques. Donc il y avait déjà un manque d'harmonisation. De plus, cette réutilisation n'était pas toujours possible du fait de plusieurs barrières qui étaient mises pour la réutilisation de ces données. C'est notamment le cas du principe de la redevance, où les administrations pratiquaient... demander le versement d'un certain montant pour donner le droit aux autres administrations, le droit de réutiliser ces données. C'est également le cas de certaines données contenues dans des bases de données publiques qui ne pouvaient pas être aisément réutilisées en vertu de la protection du code de propriété intellectuelle. Alors comment la loi est intervenue pour permettre une meilleure réutilisation de ces informations ? Tout d'abord, elle est venue étendre le champ d'application de ces informations. Notamment avec l'article 9, on a donné la possibilité de pouvoir réutiliser librement les données détenues par les SPIC, ainsi qu'on a créé avec l'article 14 ce qu'on appelle les données de référence. Ce sont des données qu'on qualifie de référence pour les administrations puisqu'elles sont utilisées fréquemment et qui n'étaient pas librement réutilisables. C'est le cas par exemple du registre national des associations ou du registre des entreprises. Le législateur a également, dans cette loi, supprimé certaines barrières, notamment le principe de redevance. Dans l'article 1, il existe maintenant un principe de gratuité entre les administrations qui ne peuvent plus utiliser ce principe de redevance pour avoir le droit de réutiliser certaines informations, ainsi que l'article 12 qui donne aux particuliers la possibilité de réutiliser librement les données détenues par l'INSEE. Enfin, l'article 11 est venu diminuer la protection des bases de données publiques pour rendre cette réutilisation possible. Dernier rapport de cette loi, la publicité des algorithmes publics. Alors, cette notion n'est pas forcément compréhensible pour nous juristes. Pourtant, il s'agirait d'un procédé mathématique mis en place pour répondre à un problème donné. Alors pourquoi on a eu besoin de parler de cet algorithme ? Il a été nécessaire de parler de ces algorithmes puisque ils étaient de plus en plus présents dans le fonctionnement des administrations, notamment dans le cas de décisions individuelles. C'est le cas, par exemple, de la mutation des enseignants. On a eu besoin donc de préciser le cadre de ces algorithmes. Excusez-moi, oui. Alors, comme je vous l'ai dit, ces algorithmes pouvaient donner lieu à des décisions individuelles. Or, selon le code de relations entre public et administratif, les décisions individuelles doivent être motivées si elles sont défavorables envers l'administré. Or, il était difficile d'expliquer les motivations de tels algorithmes. C'est pour cela que la loi du 6 janvier 1978 est venue protéger les administrés de telles décisions en donnant une certaine communication. Le problème, c'est que le problème actuellement, face à ces usages, c'était que cette protection n'était pas suffisante. La loi pour une république numérique est intervenue donc pour préciser de deux façons la communication de ces algorithmes. Dans un premier temps, l'article 4 est venu préciser que les administrations avaient désormais l'obligation de communiquer aux administrés dans le cadre d'une décision individuelle basée sur le fondement d'un traitement algorithmique, l'obligation donc d'informer qu'il y avait bien eu cette utilisation d'algorithmes. Le mérite également d'employer le terme « décision individuelle » fait également entrer concerne donc les personnes physiques et les personnes morales. Donc on a étendu ce champ d'application par rapport à la précédente loi. On a également, avec l'article 6, obligé les administrations à communiquer les caractéristiques principales des algorithmes aux administrés, dans le but toujours de que ces administrés puissent comprendre ces décisions et éventuellement les contester.
Donc, en contrebalance des apports, des différents principes qui sont énoncés par la loi pour une république numérique, on note cependant qu'à la lecture du texte, les apports novateurs de la loi laissent transparaître certaines limites qui ne sont pas nouvelles pour autant, car elles existent depuis bien longtemps. Donc le législateur tient tout de même à les rappeler ponctuellement. Par exemple, le principe d'anonymisation qui est mentionné à l'article 20. Les jugements sont mis à disposition du public à titre gratuit, mais dans le respect de la vie privée. Autre mention, le respect de l'ordre public à l'article 2. Donc le législateur précise que la communication des données publiques s'effectuera au regard de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d'information des administrations. Autre exemple, article 8. Donc le législateur encore précise bien que c'est sous réserve des droits de propriété intellectuelle que les droits des administrations ne peuvent faire obstacle à leur obligation de communication des documents administratifs. Enfin, nous conclurons sur l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. L'on constate que plus de 3 siècles après l'énonciation de ce principe, apparaît comme fondamental pour les citoyens de l'époque, ce principe est toujours au cœur des préoccupations et ne demande qu'une seule chose, évoluer et s'adapter à son temps. Nous vous remercions de votre attention.
Merci pour votre présentation, très complète, qui nous rappelle bien que tout ça s'enracine dans des textes fondamentaux de valeur constitutionnelle. Hein, il ne faut jamais oublier cet article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc, qui trouve vraiment une portée avec le numérique. Hein, merci pour cette présentation.